لينا المعيشة هدية سعد نفجر وما جائلو.
Bienvenue sur les ondes de Radio Fréquence Paris Pluriel. Nous nous retrouvons une nouvelle fois dans l'émission Algérie, on en discute, organisée et présentée par le collectif ACDA, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Cette fois encore, et comme à chaque semaine, nous nous retrouvons pour discuter et réfléchir tous ensemble sur la situation politique en Algérie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amina Afaf Chaïb, militante et responsable de la communication du mouvement Ibtikar. Amina, bonjour et bienvenue à Algérie, on en discute.
Merci beaucoup de me recevoir, je suis ravie d'être ici.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le mouvement Ibtikar dont on entend parler beaucoup en ce moment ?
Le mouvement Ibtikar est un mouvement politique non partisan et citoyen qui est évidemment présent en Algérie, mais aussi auprès de la diaspora en France et au Canada. Nous sommes des citoyens engagés pour l'émergence d'une Algérie démocratique et nos valeurs politiques que nous défendons sont l'état de droit, l'égalité femmes-hommes, les libertés fondamentales, individuelles et collectives, le respect des minorités, la justice sociale, entre autres.
Très bien. Et alors, Ibtikar et au même titre qu'ACDA a participé à la conférence du 15 juin organisée par la société, enfin l'ensemble des collectifs de la société civile. Une autre conférence a été organisée le 26 juin par les partis politiques. Le 6 juillet, la société civile s'est réunie sous l'initiative de Rahabi et donc, même si ça n'a pas été dit clairement, par le pouvoir en place. Et enfin, le Forum civil pour le changement a proposé tout récemment une liste de personnalités pouvant assurer la médiation entre le mouvement et le pouvoir. Quel regard portes-tu sur toutes ces initiatives ?
Depuis le 22 février, le début du Hirak, ou plus précisément le 17 février, à Kharrata, oui. On a vu le Hirak évoluer à fur et à mesure. C'est comme ça que la société civile a pris ses responsabilités, a joué son rôle, celui de dialoguer avec toutes ses parties dans la perspective de peut-être s'aligner à minima sur des conditions déjà, mais au départ sans préalable, réfléchir à une sortie de crise, à une façon de se structurer. Et cette démarche de dialogue qui a beaucoup manqué à l'Algérie depuis très 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 longtemps, est salutaire. Oui. Il est tout à fait normal que des acteurs, des militants, des citoyens, des associations, des syndicats se mettent autour de table pour discuter. Ce n'est pas pour autant que c'est une démarche historique. Je pense que ce qui s'est passé le 15 juin, c'était une bonne chose, un bon début. Pour autant, il faut avoir l'humilité aussi de dire qu'il faut encore construire. Il faut aussi avoir l'humilité de se dire que les personnes présentes représentent une partie de la société civile et non pas toute la société civile, car certaines personnes, certains citoyens n'ont pas pu participer aussi à ces débats-là. Donc moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'il ne faut pas reproduire les schémas du pouvoir qui est très, très, très éloigné du peuple, de la base des citoyens. Et il faut créer encore plus d'espace où vraiment les citoyens peuvent aussi faire entendre leur voix comme ils le font. Comme ils la font entendre tous les vendredis, tous les mardis aussi, les étudiants. Par rapport à la conférence de la classe politique, enfin, la partie démocrate progressiste, si on peut un peu schématiser, qui s'est rencontrée le 26 juin, le pacte politique qui en est ressorti est plutôt intéressant. Oui. Mais il est à noter aussi qu'il n'y a pas de feuille de route concrète. Oui. C'est des discussions vraiment préliminaires. C'est de se mettre d'accord sur quels seraient peut-être les préalables avant tout dialogue. C'est de s'aligner aussi sur des points politiques et des principes très, très importants. Et
Alors justement, par rapport au préalable avant tout dialogue, donc, on est d'accord qu'il faut entrer en dialogue avec le pouvoir politique. On est d'accord avec ça, mais quelles sont les conditions pour entrer en dialogue avec le commandement militaire, puisqu'il s'agit bien de cela.
Mais déjà, il faut constater que la proposition de dialogue faite par Ben Salah, déjà, ce n'est pas un dialogue.
Oui.
Et deuxièmement, c'est un dialogue où l'État et l'armée sont absents. Donc, les déteneurs du pouvoir ne sont pas autour de la table pour négocier. Mm. Le dialogue, qu'est-ce que ça... C'en est pas un, c'est ce que j'ai dit, parce que l'ordre du jour est déjà prédéfini. On le cantonne, le périmètre, c'est seulement les élections présidentielles. Et tout autre point à l'ordre du jour est exclu. Or, ce n'est pas ce que porte le Hirak depuis 5 mois déjà. Mm. Aujourd'hui, il me semble que aussi là, il y a certaines démarches qui sont peut-être dangereuses, des tentatives de récupération, d'autres aussi maladroites, car il y a toujours des problématiques de méthodologie. Annoncer des listes de personnalités avant même d'avoir leur confirmation.
Même avant de les avoir contactées, d'ailleurs. Hein,
exactement. Ça, ces erreurs qu'on aurait pu commettre au mois de février, aujourd'hui, honnêtement, c'est d'un amateurisme plutôt désolant.
Et puis, il y a aussi l'initiative un peu solitaire, c'est-à-dire que est-ce qu'on pêche pas justement parce que dans le fait qu'on n'arrive pas à construire un cadre unitaire, et là on se retrouve avec des milliers de, enfin des feuilles de route, il y en a à l'appel.
Je pense exactement, on en est là dans peut-être le processus après les dialogues, on a une multitude de feuilles de route, d'initiatives, l'intention est peut-être bonne de se dire à la fois les citoyens, la société civile et la classe politique vont devoir converger. Cependant, il faut pas aller vers cette dispersion. Dans le cadre,
faut des efforts.
Exactement. Nous, on est pour une démarche unitaire déjà des démocrates. De cette opposition, plus la société civile véritablement dans l'opposition. Et surtout, on a une responsabilité, celle de vraiment porter les revendications du Hirak et ne pas se substituer au Hirak ou de se dire on est représentatif de Hirak. Parce qu'effectivement, il n'y a pas représentativité. Par contre, se mettre au service de Hirak pour porter ces messages qui ont toujours été clairs, un état civil, une démocratie, séparation des pouvoirs, départ.
Et formaliser de manière institutionnelle.
Exactement. Aujourd'hui, il faut les traduire de manière politique. Et si certaines personnalités politiques veulent jouer un rôle, qu'ils y aillent, pas de souci, mais pas de récupération, et surtout pas trahir les revendications du Hirak, et surtout pas négocier dans le dos de millions de personnes qui sortent sans relâche depuis 5 mois.
Alors, on vient d'apprendre que justement, certaines personnalités ont été reçues par Ben Salah. Alors, je ne sais pas encore qui, j'ai pas vraiment vu l'information. Est-ce que si on ne doit pas aller, si on ne doit pas dialoguer pour discuter les conditions de la tenue des prochaines élections présidentielles, pourquoi dialoguer ? Quel est l'objectif du dialogue ?
Moi, je pense effectivement qu'on ne peut pas aller vers un dialogue dans des conditions actuelles. Il n'y a effectivement pas une proposition politique vraiment forte pour une sortie de crise qui mènerait vers une transition. Il n'y a précisément, en fait, le pouvoir est en train de verrouiller le champ politique pour imposer des présidentielles. Et je pense que la réunion qui s'est tenue aujourd'hui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que même des personnalités, une certaine constitutionniste que plutôt respectée, d'autres personnalités, ça, c'est une tentative aussi de récupération et de détournement des revendications de Hirak pour tout ramener et faire du forcing avec ces élections présidentielles. Il faut qu'il y ait des prérequis avant d'aller vers un dialogue. Et le plus important, effectivement, on parle de cette question de la libération des détenus qui serait un message fort, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi le départ de ces symboles du système qui sont encore en train de nous gouverner.
Et la garantie qu'il n'y aura pas de répression plus tard aussi.
Exactement. Il y a le respect des libertés, il y a la libération de la presse, il y a la libération des détenus, mais aussi ces détenus d'opinion qui sont là bien avant le début de la révolution.
Tout à fait.
Et ça, ce serait peut-être des gestes qui parleraient plus fort que des discours avec lesquels on nous bassine depuis longtemps.
En dehors justement de la conférence qui s'est tenue à l'initiative du pouvoir, toutes les autres feuilles de route prône pour une transition politique. Parce que sans transition politique, il n'y a pas de changement radical, il n'y a pas de rupture avec le régime actuel. Sauf que toutes ces feuilles de route pêchent dans le fait qu'elles ne précisent pas justement ce que c'est et comment se fera une transition politique. Et beaucoup se posent la question légitimement de comment on fait si on sort du cadre constitutionnel, est-ce qu'on risque pas d'aller vers l'aventurisme, vers le chaos, dans quel cadre juridique cette transition va se faire. Donc qu'est-ce que vous répondez à ces interrogations?
Déjà, on est hors contre cadre constitutionnel depuis très longtemps. Oui. Donc, il faudra s'y habituer. On est effectivement dans un territoire un peu inédit où tout est à construire, y compris les méthodologies et les mécanismes par lesquels nous irons vers cette transition. C'est pour ça que moi, je dirais, et petit Carl, nous dirons que le mécanisme le plus urgent, c'est celui vraiment du dialogue constructif. Et quand on dit constructif, c'est effectivement cette divergence dans les initiatives, ces dialogues qui ne se rejoignent pas et sans effet cumulatif entre les conférences. Oui. Je pense qu'il nous manque encore des méthodes de travail collaboratives, un cadre bien précis avec lequel on pourrait avancer. Et il y a deux temps. Il y a le temps de la sortie de crise, donc ce qui nous permettrait de concrétiser la transition. Puis viendra le temps de la transition, qui est un temps plus long, qui est le temps de la construction, et dans lequel il faut prendre son temps, parce que l'enjeu et les chantiers sont très très grands. Il s'agit de remettre sur pied des institutions, il s'agit de repenser la relation de l'État avec le citoyen, il s'agit de reconquérir sa citoyenneté pleinement, avec vraiment des droits et des devoirs, sortir aussi du schéma de la domination de l'économie par l'exploitation de la rente et la corruption et le clientélisme. Donc il s'agit aussi d'une transition économique aussi. Parce que la rente, c'est aussi ce qui a permis à la matrice, au système actuel, de se maintenir, aussi longtemps.
Très bien. Et quand on parle de transition politique, de quoi s'agit-il concrètement? C'est-à-dire, quel est l'objectif? Est-ce qu'il s'agit de changer le régime électoral? Ou est-ce qu'il s'agit de démanteler les principaux moyens de contrôle de la société? Quel est l'objectif de cette transition?
Cette transition, c'est à la fois repenser ce que c'est l'Algérie entièrement. Parce que le constat est que depuis l'indépendance, notre souveraineté en tant qu'Algérien, elle nous a été arrachée, elle nous a été usurpée. C'est-à-dire qu'on a une fenêtre d'opportunité, une fenêtre historique où on peut réinventer notre pacte social. C'est quoi notre vision d'Algérie? Comment on peut être liés les uns aux autres? Il s'agit vraiment de repenser et de concrétiser un régime démocratique, une véritable république. Celle qu'on n'a jamais eue, finalement. Et cette république, qu'on peut appeler première ou deuxième, en fait, elle est assise sur des principes très forts et des institutions aussi fortes qu'il faudra protéger. Il faudra protéger avec des lois fondamentales, avec des institutions fortes et clairement définies. On parle de séparation de pouvoir, on parle d'état de droit, dans lequel les citoyens sont égaux en droit, sont protégés, leurs libertés sont protégées, et c'est parce qu'ils sont aussi libres qu'ils peuvent être des citoyens responsables et qu'ils peuvent avoir aussi des devoirs. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas été dans cet état, dans cette configuration-là. Nous avions un pouvoir très opaque, dont nous percevons qu'une façade civile, mais derrière avec des oligarques, des membres de l'armée, une répression très forte de tous ceux qui réclamaient véritablement leurs droits légitimes. Et il faut absolument qu'on sorte de ça. Et le chantier est très très grand, et je pense que si on prend la mesure de tout ce qu'il y a à faire, l'audit des institutions, la réforme aussi des institutions financières, remettre une fiscalité, comment peut-on parler de justice sociale par exemple si nous n'avons pas de fiscalité en place? Comment arrêter la hogra si en fait si l'économie
pas la justice
a, la justice déjà. Comment sans justice indépendante peut-on avoir un état de droit? C'est impossible. Donc les chantiers sont énormes et je pense que il faut prendre la mesure de la nécessité de cette transition. Et quand on regarde vraiment notre histoire et le bilan au jour d'aujourd'hui, des élections présidentielles, c'est pas ça qui va régler les problèmes d'Algérie.
Ça nous mènera directement vers la même situation dans laquelle on se trouve depuis des années.
Exactement.
Pause musicale.
Sur Radio Fréquence Paris Pluriel, dans l'émission Algérie, on en discute en présence de la charmante Amina Afaf Chaïb, membre de l'association Ibtikar. Amina, sortir de l'autoritarisme nécessite une nouvelle constitution démocratique. Certains souhaiteraient que la transition politique mène vers l'élection d'une assemblée constituante dont l'objectif serait de débattre et de rédiger une nouvelle constitution. Ma question, c'est, est-ce que si on va vers cette option, on ne risque pas de rallonger la période de transition et donc de prendre le risque, justement, de manipulation, de récupération, etc. Enfin, tout ce que cela implique.
D'abord, j'aimerais dire qu'une phase de transition, ça ne veut pas dire vacances d'État. Une phase de transition, on peut avoir un président intérimaire, où on peut avoir un présidium, une présidence collégiale, juste pour cette phase de transition. On aurait aussi un gouvernement de transition qui serait là aussi pour sa compétence, pour pouvoir à la fois gérer les affaires courantes, mais aussi réformer, mettre sur les rails tous ces chantiers prioritaires que sont les libertés de la presse, individuelles aussi, liberté de manifester, etc. Ces libertés qui sont prioritaires, parce qu'on nous met en prison actuellement pour ça, mais aussi l'urgence économique qu'il faudra aussi gérer, ce serait aussi dans la transition, ce serait un gouvernement de transition aurait plus de légitimité que le gouvernement actuel. C'est ça qu'on oublie aussi. Aujourd'hui, il y a une crise de légitimité, c'est ça le problème.
Mais du coup, ils ne seraient pas élus, les personnes qui contribueront à, qui constitueront le gouvernement de transition ou même le présidentium. Est-ce que il ne sera pas élu, il sera désigné? Quelles sont les modalités de désignation justement pour garantir la légitimité de ces personnes-là?
Bah, aujourd'hui, c'est ça. Je pense que les dialogues qu'on doit avoir au sein de la société civile, au sein de cette classe politique démocrate qui est en train de réfléchir à ces questions, mais aussi avec les citoyens, c'est précisément ces questions-là. Or, on ne les retrouve pas. Et le citoyen est exclu. Donc, il se retrouve en fait à se voir, à découvrir à la télé, sur les réseaux sociaux, des personnalités que peut-être il connaît, qu'il ne connaît pas. Il y a beaucoup de jeunes, ils ne connaissent pas ces personnes qui sont très âgées, qui ne lui ressemblent pas, qui sortent de nulle part. Et qui... voilà. Donc, arrêtons avec ces démarches de, comment dire, descendantes. Quand on propose, il faut aller créer du dialogue avec les citoyens. Et je pense qu'on peut à la fois avoir cette démarche de transition avec un présidium et un gouvernement, mais en même temps, créer tous les canaux de discussion, de dialogue, de concertation avec les citoyens. Nous, par exemple, Eptical, on développe un outil numérique et une application qui permettrait de discuter potentiellement avec ses représentants locaux au niveau de la wilaya, mais pourquoi pas même nationaux, discuter aussi avec ses pairs, ses concitoyens, autour de thématiques qui pourraient aussi être des sujets, des propositions de loi. Ça pourrait être des propositions de loi même fondamentales, si jamais il y a constituante. Et concernant la constituante, aujourd'hui, le conseil, c'est que la constitution que nous avons, c'est une constitution sur mesure pour un président au-dessus de la loi. Donc, on est dans le présidentialisme ça ressemble à une monarchie présidentielle, plutôt. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Il y a beaucoup de lacunes. Par exemple, le rôle de l'armée, il n'est pas bien conditionné. Aujourd'hui, on se retrouve avec des dépassements. On ne sait pas ce que c'est la souveraineté. Est-ce que c'est purement territorial? Est-ce que c'est aussi le symbole? Il y a quand même des choses à préciser, à mettre les garde-fous de la démocratie, mais en même temps, mettre véritablement la souveraineté populaire qui est le peuple, c'est le constituant. Le peuple est constituant. Donc la constitution, aujourd'hui, c'est une question urgente, aussi parce que le Hirak a porté des messages qui touchent à la constitution elle-même. On a parlé de l'article 7, le peuple source de tout pouvoir. On a parlé de l'article 8, le pouvoir constituant appartient au peuple. Ça, c'est des choses qui sont inscrites dans la constitution, mais qui sont bafouées au quotidien. Donc, il y a deux voies, ou bien aller vers une constituante. Et là, il faut le préciser que la constituante, elle travaillerait de son côté sur une nouvelle constitution pendant que le gouvernement de transition
fait son travail.
Oui. Donc, ce n'est pas non plus on met tout sur pause pendant 2 ans et rien ne se passe tant qu'on ne se met pas d'accord.
Mais si on va justement vers une assemblée constituante, est-ce qu'on ne prend pas le risque de voir les forces non démocratiques se faire élire majoritairement et finalement se retrouver dans la même situation?
On peut d'ores et déjà, avant, mettre les conditions de désignation, modalités de prise de décision. Si on peut s'inspirer de ce qui existe comme mécanisme, par exemple, ce serait les lois individuelles, les articles de la Constitution doivent tous être adoptés à l'unanimité, par exemple, ou aux 2/3. Et que le texte final aussi soit soumis au référendum. En fait, il y a beaucoup de mécanismes fins à mettre en place pour éviter qu'une minorité l'emporte, qu'une majorité écrase une minorité, et qu'il y ait toutes les conditions pour que cette nouvelle constitution qui émerge soit véritablement basée sur l'intérêt général et ne soit pas orientée idéologiquement, ou au moins, si elle l'est, qu'elle soit démocratique surtout. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont existantes. Il y a aussi des mécanismes hybrides qu'on peut mettre en place. On peut à la fois avoir 1/3 de l'Assemblée qui est désignée, 2/3 élus, on peut avoir des représentants de wilaya ou locaux, on peut avoir même du tirage au sort. Toutes ces pistes sont à évoquer, vraiment, mais sans dogmatisme. Mettons-les sur la table, voyons le bon et le mauvais, et prenons des décisions par rapport à ça. Et puis, il y a toujours ces personnes qui vont dire que nous n'avons pas la maturité ou la possibilité ou l'organisation nécessaire pour mettre en place des mécanismes aussi complexes. Je leur répondrai que nous l'avons fait déjà dans notre histoire plusieurs fois. Et que effectivement, il y a aussi la possibilité de faire des réformes constitutionnelles. Il ne faut pas que ce soit du rafistolage, parce que vraiment, l'enjeu, c'est qui fait ces réformes.
Tu anticipes sur ma prochaine question. Alors, pourquoi ne pas opter justement pour l'élaboration d'une constitution par un groupe d'experts, mais qui découlerait bien sûr de la phase transitionnelle? Donc, est-ce que ça ne nous mènerait pas aussi vers une nouvelle république? C'est la proposition. D'ailleurs, c'est là où divergent un peu les feuilles de route. Certains préfèrent que ça aboutisse vers une constitution proposée par un groupe d'experts et soumise au référendum. Certains veulent que ça passe par un processus constitutionnel.
Si je vais dans le sens de cette proposition-là, ça ressemble à ce qui a été fait en 1989, la constitution de 1989, où c'était un groupe très restreint d'experts, dont Hamroch d'ailleurs, et qui avait élaboré la constitution en un mois. Et ensuite, elle a été soumise au référendum, donc au vote des citoyens, et qui a été validée ainsi. Et c'était la constitution qui avait un peu consacré le multipartisme et qui avait porté un espoir, certes très court dans notre histoire. Ouais. Donc ça, c'était comment les choses s'étaient passées, par exemple, en 89. Mais à l'époque, on avait confiance en Chadli et il a porté ce projet de constitution, alors qu'à l'époque...
À l'époque, le régime était le même, il n'a pas changé.
Exactement. Aujourd'hui, en fait, l'avantage de la constituante qu'a sur cette proposition... qui peut-être est, comment dire, en termes de faisabilité, plus facile à gérer, c'est que la première, elle compte sur la participation des citoyens. Et je pense que si les gens ils sont sortis dans la rue aussi, c'est pour qu'ils fassent entendre leur voix, c'est qu'ils participent à la construction de cette Algérie. C'est parce qu'ils sont en train de se dire « bled, bled, nain, c'est à nous la souveraineté ». Et enfin, incluez-nous. Encore une institution qui nous exclut et qui met un petit club d'experts qui sont au-dessus de nous.
Oui, mais le référendum, c'est pas les inclure dans...
Je pense qu'un processus qui inclut dans une dimension ou une autre les citoyens a l'avantage de restaurer la confiance qui s'est perdue. Et aussi, je pense que même si on va sur peut-être une constitution faite par des experts, quand bien même, si les citoyens l'acceptent, et ils ont confiance, ils le feront savoir. Donc tout ce qui sera décidé, que ce soit par une classe politique, une proposition de conférence nationale, multipartite, etc., celui qui aura le dernier mot, bah, en fait, c'est le Hirak, le vendredi, qui va dire non, on ne vous reconnaît pas, non, on n'en veut pas, ou oui. Donc ça, c'est en quelque sorte, c'est la condition sine qua non pour avancer.
Quelle forme d'organisation doit avoir la diaspora pour accompagner le mouvement dans sa lutte pour une nouvelle république démocratique? Une question qui nous concerne directement.
Tout à fait. Les Algériens à l'étranger, c'est tout naturellement qu'ils se sont inscrits en symbiose avec ce qui se passe sur le territoire national. C'est des Algériens au même titre que ceux qui sont sur le territoire national. Et je ne pense pas qu'il y ait de distinction à faire. Aujourd'hui, on est sorti pour récupérer notre citoyenneté, mais c'est aussi la citoyenneté de tous les Algériens, peu importe où est-ce qu'ils sont. Et dans la phase de transition, même aujourd'hui, on a besoin de toutes les intelligences, de toutes les énergies. Et viendra le temps où il faudra vraiment contribuer à tous ces chantiers pour reconstruire l'Algérie. Il faut absolument que tout le monde... Et il faut rapatrier aussi ces intelligences qui ont fui l'Algérie, qu'on a fait fuir plutôt.
Oui.
Sous n'importe quelle forme, on peut à la fois contribuer en retournant chez soi, on peut contribuer à distance en lançant des projets. En tous les cas, il y a des passerelles à construire, il y a des passerelles aussi existantes. Il y a un débat sur l'usage du mot diaspora ou pas. Est-ce qu'on est vraiment une diaspora très organisée? Ou est-ce qu'on est vraiment des
Algériens à l'étranger?
Des Algériens à l'étranger. Il y a vraiment toutes ces questions-là. Mais en tous les cas, moi, je pense qu'on est déjà... complètement investi. La preuve, Ibtikar, on est à la fois en Algérie, mais aussi près de la diaspora qui est à l'étranger. Akda, vous êtes pareil. Aussi, oui. Ça ne nous empêche pas de participer au dialogue de la société civile. Ça ne nous empêche pas. Et ça aussi...
On participe à des cadres unitaires aussi.
Exactement. On est algérien et on fait partie aussi du monde. Et c'est ça aussi notre force. Donc là où certains iraient nous dire que c'est des divisions, etc., ben, au contraire, c'est ça qui fait notre force. Et peut-être ceux qui sont à l'étranger, ils ont aussi un recul, ils ont aussi des ressources, ils ont aussi un point de vue différent qu'ils mettraient au service. Tout ça, c'est des ressources au service du Hirak.
Le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est Tahia al-Jazair et on en est qu'au début, donc gardons le cap.
Très bien, gardons le cap, Tahia al-Jazair. À très bientôt. Merci, au revoir.